Bonsoir à tous. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir, j'allais dire comme d'habitude, Michel Corvin, professeur émérite de l'Université Paris 3, qui est l'éditeur savant du Prince de Hombourg, et Martin Juvanot du Vachat, que certains de vous connaissent également, et qui va lui-même être l'acteur, qui va incarner plusieurs rôles, en compagnie d'ailleurs, pour certaines scènes, de Michel Corvin. Donc, cette pièce, nous l'avions prévue, plus ou moins, notamment à cause du Festival d'Avignon. Vous savez que, finalement, le public n'a vu que la deuxième représentation, et non pas la première, qui a été annulée. Et cette pièce sera reprise dans quelques temps dans la région parisienne, malheureusement pas à Paris même, mais enfin, elle est qualitativement jouée et nous y reviendrons. C'est en tout cas une des pièces majeures du répertoire que Jean Villard a révélée à ma génération, je dis à celle antérieure aussi, mais notamment à la mienne.
Il l'a révélée à tout le monde parce qu'elle était totalement inconnue en France.
Et donc, comme elle est de Kleist, Michel, je vais d'abord vous demander quelques mots de resituer Kleist comme écrivain.
Ben, Kleist est un personnage assez particulier parce qu'il n'est pas un écrivain professionnel. C'est un aristocrate et dans cette mesure, il n'a pas à écrire. On laisse ça à des gens qui ont besoin de finir leur mois, mais quand on est un aristocrate, on est militaire. Et quand on est militaire, on fait la guerre, on s'occupe pas de ces tâches, disons, qui sont un peu de rebut. Donc déjà, par le fait d'écrire, c'est un marginal. C'est un marginal caractériel aussi, dans la mesure où il a voulu ne pas être militaire. Alors ça, évidemment, un militaire qui ne veut pas l'être, il ne reste pas grand-chose. Donc, il a essayé de ne pas travailler, mais il a bien été obligé quand même de le faire un petit peu. Il a sollicité, mais jamais vraiment très convaincu, des petits emplois. Il en a eu, mais à la fin de sa vie, si on peut dire à la fin de sa vie, puisqu'il s'est suicidé au moment même où le prince lui permettait de devenir un peu un bibliothécaire surnuméraire, enfin quelque chose qui aurait été un moyen de vivre, mais il a refusé. Donc c'était trop pour lui, donc c'est quand même quelqu'un qui est fondamentalement mal dans sa peau. Mal dans sa peau, mais il a quand même écrit, et écrit beaucoup. Et il a été, disons, reconnu par un tout petit noyau d'auteurs, Greg Passer, par exemple, mais très peu finalement, et donc il était un peu, disons, rejeté de partout. Donc sa carrière, il l'a faite toute seule avec, disons, sa plume, et des bureaux, si on peut dire, parce qu'il a beaucoup voyagé, beaucoup circulé, instable aussi, donc, constamment parti à travers l'Europe, avec sa sœur, sa demi-sœur Ulrich, qui en même temps le chaperonnait, le soutenait et le surveillait parce que c'est un personnage imprévisible. Il a voulu partir, par exemple, pour mourir, envahir l'Angleterre avec Napoléon. Et naturellement, il a été, bah, il devait être un peu bizarre d'apparence, il a été arrêté comme espion. Donc, son expédition en Angleterre a échoué. Et puis, une autre fois, il a encore été arrêté comme espion. Donc, manifestement, il a tiré la malchance sur lui. Donc, sa carrière a été une carrière pour le futur, pour l'avenir, pour nous, pas pour lui, ni pour ses contemporains. Et sa vie a été semée de rêves, et le rêve est extraordinairement important chez lui, mais justement, ce n'est pas n'importe quel rêve, on en parlera. Mais sa vie, donc, finalement, se résout à très peu de choses, sinon qu'il a été jusqu'au bout du possible, et ce n'était plus possible. Il a trouvé une solution qui était de passer de l'autre côté pour obtenir le bonheur par la mort, avec une complice qui n'était pas apparemment sa maîtresse, mais qui était une amie qui elle-même était atteinte d'un mal incurable, et tous les deux se sont suicidés, très aristocratiquement, très militairement, il l'a tué, il s'est tué, et c'était fini pour lui en 1811, donc en novembre 1811. Donc sa vie, finalement, se réduit à peu de choses.
Une trentaine d'années,
oui.
On voit d'ailleurs que les militaires qui écrivent sont toujours mélancoliques, comme Gigny, comme Beauvenargues,
qui disaient très bien. Mais lui, c'est encore pire parce qu'il est d'une famille où on est militaire de père en fils avec des hauts grades, des généraux, quantité. Lui, il appartient à une famille, son père était aussi militaire, mais il n'y avait pas, il y avait pas moyen pour lui d'accepter, il l'a écrit d'ailleurs de façon très claire, donc quand on parle du militarisme de Claes, vraiment, c'est parce qu'on ne peut pas le connaître. Mais on peut le connaître parce que sa correspondance a été publiée il n'y a pas très longtemps, est extrêmement riche et pour moi absolument révélatrice de l'orientation même de son œuvre, bien sûr.
Donc c'est un militaire qui démissionne et oui. Nous avons prévu, je crois, de lire une lettre
oui.
Où Christ s'explique sur sa démission.
Vous ne voulez pas qu'on résume la pièce pour commencer ?
On
peut commencer par la lettre de démission, elle est particulièrement significative parce que il écrit cette lettre à un ami en 1799. Il est entré dans l'armée à 15 ans. À 15 ans. Et il a démissionné à 19 ans. Il était déjà un peu gradé, il était l'équivalent de sous-lieutenant. Et il pouvait continuer, bien sûr. Il suivait la filière normale, mais cette filière, il n'en a pas voulu. Donc, la servitude militaire, pour lui, est absolument insupportable. Il est un homme indépendant. Et il écrit ceci, et très lucide, en même temps sur ce qu'on attend d'un militaire de l'époque. Car la condition de soldat à laquelle mon cœur n'a jamais souscrit, la trouvant trop peu conforme à sa nature profonde, ces considérations me l'ont fait prendre en horreur, au point qu'il me devient impossible de l'assumer. Les fameux miracles de la discipline militaire, qui faisaient l'étonnement de tous les connaisseurs, sont devenus l'objet de mon plus cordial mépris. Je voyais dans les officiers des chefs de parade, dans les soldats des esclaves, et quand le régiment montrait son savoir-faire, je croyais voir le monument vivant de la tyrannie. À cela s'ajoutait que je commençais à ressentir vivement le retentissement néfaste de ma situation sur mon caractère. J'étais souvent obligé de punir là où j'aurais volontiers pardonné, ou bien je pardonnais quand il aurait fallu sévir, et dans les deux cas, je me tenais pour répréhensible moi-même. Dans ces moments-là, naissait tout naturellement en moi le désir d'abandonner une situation dans laquelle, torturé par deux principes contradictoires, je ne savais jamais si je devais agir en être humain ou en officier. Quant à concilier les devoirs propres à ces deux fonctions, je pensais cela impossible dans l'état actuel de l'armée.
C'est très beau texte.
Très beau, et il n'envoie pas par la poste.
Et donc... Si nous revenons à la pièce, en effet, il faut parler une seconde de la situation militaire et politique en 1810.
Eh oui.
Je vois dans la pièce, d'une certaine manière.
C'est vraiment très précisément une pièce d'actualité patriotique, c'est-à-dire qu'elle a été écrite dans le courant de l'année 1810 et 1811. Et vous savez qu'en 1810, Napoléon a épousé Marie-Thérèse d'Autriche et que le roi de Rome est né en mars 1811. Donc il y a là, dans la fable même, une ligne parallèle à ce qui se passe en Autriche. C'est-à-dire que la proposition qu'il est peut-être possible de faire au roi de Suède, de lui donner en épousaille pour avoir la paix, la fameuse Nathalie, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire l'empereur d'Autriche a donné sa génisse à ce taureau immonde qui était Napoléon, l'ogre, on l'appelait comme ça. Donc c'est justement ça que Christ refuserait, ce scandale de voir la plus belle jeunesse autrichienne dans le lit de cet horrible monsieur. Donc on a ça, ceci d'abord qui est d'actualité, et puis d'autre part le fait que la Prusse est totalement à genoux au moment où il écrit sa pièce, c'est-à-dire qu'elle a été battue à Iéna, et il y a eu ensuite Tilsit avec les accords qui ont littéralement dépecé la Prusse, qui n'est plus que quatre principautés, et qui est obligée de s'allier avec la Westphalie pour devenir une sorte de vassalité dans cette confédération du Rhin d'un suzerain supérieur qui, naturellement, est Napoléon. Donc le contexte politique est extrêmement précis pour donner toutes les raisons de désespérer et en même temps de proposer une possible renaissance. Et justement, c'est pour cette renaissance que Claes a écrit la pièce. Et il espérait beaucoup, justement, de la part de la princesse de Hombourg, descendante directe du prince de Hombourg, qui était la belle-sœur du roi de Prusse, d'être soutenue, d'être considérée finalement comme une sorte de poète national, ouvrant la voie à la résurrection de la Prusse. S'il était, disons, resté vivant 2 ans de plus, il aurait vu, justement, cette résurrection, puisque à Leipzig, en 1813, eh bien, Napoléon s'est fait battre. Et ça a été le commencement de la fin. Donc, vous voyez, on est là dans une période extrêmement importante d'un point de vue politique et historique. Et donc, l'histoire ancienne du prince de Hombourg, vieille bataille de 1675 qu'il a aménagée à sa mode, était extraordinairement intéressante par son choix pour, justement, permettre de faire un transfert du XVIIe siècle finissant au XIXe siècle en train de recommencer, si on peut dire.
Une bataille contre les Suédois, alors.
Oui, c'était la bataille de Fervélin contre les Suédois. Les Suédois étaient toujours, vous savez, aux aguets pour manger tout ce qui était autour. C'était des militaristes, alors eux, forcenés. Et donc, on les voit d'ailleurs réapparaître aussi. D'ailleurs, en 1813, ils vont faire partie de l'alliance contre Napoléon. Il y aura les Suédois, les Autrichiens, l'Angleterre et la Prusse. Et Napoléon, il ne sera pas de force. Il se fera avoir. Donc, pour ce qui est de...
Si on résume la pièce,
oui.
Donc on a...
Si on résume la pièce, il y a deux choses, mais vraiment très différentes. Et justement, cette articulation n'a pas été saisie par la plupart des metteurs en scène. Il y a le caractère historico-politique, une bataille. C'est une pièce d'un spécialiste, il connaît très bien, il est quand même resté de 15 ans à 19 ans, il sait ce que c'est que la bataille, il a participé hein, aux batailles de la Révolution française, mais du côté et de l'autre côté. Donc il a une vision et un pouvoir de description de la bataille qui fait de sa pièce quelque chose de tout à fait, disons, scénique, ou scénographique, si on veut. Avec des astuces que les Allemands ont inventées pour rendre visible ce qui ne se voit pas. Un procédé qui porte un nom un peu barbare, qui s'appelle la teikoscopie, c'est-à-dire le récit de ce qui se passe en même temps. Donc c'est le récit, mais avec une temporalité immédiate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart de temps. Vous regardez par la tête, « Ah, justement, il y a un clochard qui est en train de se faire massacrer, etc. » Donc vous voyez le clochard en train de se faire massacrer, et ça, c'est tout à fait intéressant pour une pièce historique. Donc on a ce récit qui est, on peut le résumer, il y a un passage où on voit la bataille, c'est, vous savez, ce qui se passe. Le prince de Hombourg est un jeune, bouillant jeune homme qui est général de cavalerie, et l'équipe dirigeante s'est réunie, conseil de guerre, pour mettre en place les épisodes de cette nouvelle bataille. On est en train de se battre avec les Suédois à peu près tous les jours. Alors, c'est une bataille, mais celle-ci, il faudrait qu'elle soit décisive. Parce qu'une petite victoire, ce n'est pas suffisant. Si on tue 200-300 Suédois, ça ne vaut pas le coup. Il faut vraiment les mettre dehors définitivement. Donc, c'est un gros coup. C'est le coup terminal. Or, l'électeur a bien pris ses dispositions, il y a une rivière, il y a un village, il y a des marais, donc on va les coincer et on aura définitivement la paix avec ces gens-là. Et il donne l'ordre au prince de Hombourg, avec sa cavalerie, d'attendre le signal où justement les Suédois commenceront à être défaits, commenceront à se défaire, parce qu'il y aura une masse de soldats qui est en attente dans les marais qui va les surprendre, donc pour arriver à ce moment-là seulement. Or, bouillant jeune homme, il ne respecte pas la consigne et il lance sa cavalerie proto, de son propre chef. Alors, de son propre chef, c'est une faute grave, évidemment. Donc, ça serait catastrophique pour lui, mais il gagne la bataille, il participe à faire gagner la bataille. Donc, vous voyez, ici, tout de suite, il y a quelque chose d'un peu difficile à déterminer. Il a gagné la bataille, mais pour de mauvaises, finalement, raisons, raisons d'enthousiasme, raisons de jeunesse folle, mais ce n'est pas ce qu'il faut quand on est militaire. Et c'est ce que l'électeur va dire immédiatement, j'ai gagné la bataille, mais je ne suis pas content. Et non seulement je ne suis pas content, mais je vais passer en conseil de guerre celui qui est coupable de cette histoire. Donc ça, c'est l'aspect militaire, patriotique, politique, tout ce que vous voudrez, de la pièce. Mais il y a un autre aspect qui est proprement classien, mais je ne le dis pas. Je dis simplement, il y a un autre aspect extrêmement important qui appartient à la personnalité de Kleist. Je vais me taire. Ah. Allez, vas-y.
Donc il s'agit justement de la fin de l'acte 2, juste après la bataille, où l'électeur déclare la chose suivante. Celui, quel qu'il soit, qui a mené la cavalerie le jour de la bataille et qui, de sa propre autorité, avant que le colonel Hennings ait pu détruire les ponts de l'ennemi, a lancé l'attaque et contraint l'ennemi à la fuite sans attendre mon ordre, celui-là, je le déclare, est passible de la peine de mort, et je le traduis en cour martiale. N'est-ce pas le prince de Hombourg qui l'a mené ? Non, Altesse. Qui me le prouve ? Des cavaliers peuvent te le confirmer, qui me l'ont assuré. Avant le début de la bataille, le prince a fait une chute de cheval. On l'a vu grièvement blessé à la tête et aux cuisses, se faire soigner dans une église. Peu importe. La victoire d'aujourd'hui est éclatante, et demain, devant l'autel, je remercierai Dieu. Mais fût-elle 10 fois plus grande encore, cela n'excuse pas celui par qui le hasard me l'a donné. Il me reste d'autres batailles encore à livrer, et je veux que l'on obéisse à la loi.
Alors ça c'est clair, et naturellement ça va suivre son cours, c'est-à-dire que c'est lui évidemment qui a commis l'erreur, donc on lui enlève son épée, on le met aux arrêts de rigueur, il passe en conseil de guerre, et il est condamné à mort. Alors évidemment, ça va se compliquer parce qu'il y a non seulement l'autre pan de la personnalité du prince d'Hombourg qui est aussi et surtout la personnalité de Kleist, c'est la place du rêve. Et puis, il y a aussi le fait que tous ces gens-là sont de la même famille. Alors c'est assez gênant, c'est-à-dire que si vous êtes le cousin du chef, vous pouvez le traiter comme chef, mais vous pouvez aussi le traiter comme cousin. Autrement dit, les problèmes sont insolubles dans la mesure où on mélange les torchons et les serviettes, les relations de famille et les relations d'autorité. Et ça va être un méli-mélo dont le prince ne réussit pas à sortir, parce qu'il croit toujours avoir affaire à quelqu'un qui est son père protecteur. Il est le neveu de l'électrice, donc tout ça, ça crée des liens. Et sont-ils suffisants pour qu'on puisse passer par-dessus la loi militaire ? Donc cet aspect-là est déjà très gênant aussi. Alors le plus gênant, c'est que le prince de Hombourg, c'est un rêveur. C'est un rêveur, c'est-à-dire quelqu'un qui est atteint de somnambulisme. Alors attention aux notions de rêve, c'est pas une rêverie, c'est pas une rêverie romantique d'un monde, etc., qui apporterait sur un nuage la gloire, la beauté. Il y a de ça, bien sûr, mais il y a beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il y a un autre monde qui est le monde construit dans le sommeil. Les yeux fermés, on voit un autre monde qui est le seul vrai. Le seul vrai monde, c'est le monde du rêve. Et donc, on est dans une position, on pourrait dire, d'inconnaissance totale de ce monde. Il n'appartient qu'à lui, lui seul le connaît. Donc, on ne peut pas rentrer dans ce monde. On peut simplement trouver que c'est bizarre de la part de ce général d'être absent. Il est absent. C'est-à-dire, quand on désigne les différents postes militaires, il n'écoute pas, il n'entend pas. Il n'est pas là où il devrait être. Il ne l'est pas dès le début. Mais alors, c'est compliqué par le fait qu'il est la victime d'une sorte de traquenard que lui joue. Ben, c'est pas lui qui est responsable. Lui, il est en train de rêver. Il est ailleurs. Il flotte. Où, on ne sait pas. On ne le saura jamais. Alors voilà l'électeur qui descend avec Nathalie, sa nièce, avec sa femme, l'électrice, et qui joue un jeu extrêmement ambigu. Mais là, c'est pas du rêve. Mais ça va être transformé par le rêve, bien sûr. Il prend son collier d'or et il prend la couronne que le prince d'Hombourg était en train de tresser. Alors évidemment, tresser une couronne, déjà, c'est un peu anticipé sur ce qu'on peut appeler la victoire future. Donc il entremêle la couronne avec le collier d'or et il charge Nathalie de la poser sur la tête du prince d'Hombourg. Oui, l'ambiguïté, là, elle est totale. Alors, évidemment, il va lui-même, le prince, tricoter à partir de ce geste, et ça va tout de suite trop loin. Le prince de Hombourg est en train de saisir le collier et la couronne, et le lecteur dit halte-là, il se sauve, il disparaît dans son palais, et le malheureux prince reste là avec un souvenir un peu nébuleux de ce qui s'est passé, mais quand même assez précis, parce qu'il a bien noté qu'il y avait Nathalie et qu'il y avait des gens qu'il connaissait. Donc tout ça, vous voyez, c'est un mélange d'éléments confus, d'éléments précis, participant à cette espèce de brouillard qui va baigner toute la pièce. Et si on n'a pas cette impression de brouillard et d'insaisabilité, si on peut dire, de la personnalité du prince, on passe complètement à côté. C'est-à-dire que ce n'est pas une histoire de désobéissance militaire de quelqu'un qui agit comme un jeune chien. C'est beaucoup plus que ça. C'est Kleist lui-même. Et là, il faut absolument que je vous lise un texte de lui qui est d'une autre pièce et qui est la Catherine, la petite Catherine de Hybron, où vous avez un dialogue entre un monsieur qui a naturellement toute sa lucidité et une jeune fille qui est en train de dormir. Un dialogue, je dis bien. Elle lui parle tout en dormant. Et donc on a affaire, vous voyez, c'est ça le monde du rêve, selon Kleist. C'est un monde où on existe pleinement, mais on existe ailleurs. Alors, vous savez que dans la petite Catherine de Hybron, vous avez le comte Strahl qui est littéralement harcelé sexuellement par une gamine de 15 ans. Elle le suit partout comme un chien, c'est l'expression qui est utilisée, et naturellement, ça fait très mauvais effet. Et le papa de la petite accuse le comte en question de l'avoir suborné, de l'entraîner naturellement dans les mauvais lieux ou dans les mauvaises voies. Et puis, autour du comte, les gens commencent à trouver que sa conduite est bizarre, mais il n'y peut rien. Alors, il est à la fois furieux d'être l'objet de cette poursuite amoureuse de la part de cette fille, et puis en même temps, il a pitié d'elle, parce que malgré tout, c'est une gamine fraîche, sympathique, il n'y a qu'une raison de la tarabuster. Alors, il y a un moment où il veut quand même en avoir le cœur net. Alors, lui-même, il est somnambule, le comte Strahl. Il rêve, il a rêvé. Elle-même, elle rêve. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il va y avoir rencontre des deux rêves. Et à partir du moment où là, les deux rêves se rencontrent, ça veut dire que c'est vrai. Il y a rencontre de deux rêves, alors naturellement, ça veut dire qu'on est dans un monde totalement autre. C'est-à-dire qu'il est malade dans son château, et en même temps, dans son rêve, il est projeté dans un autre endroit où il rencontre la jeune fille en question, qui se trouvait dans son rêve, la fille bâtarde de l'empereur. Et elle est, effectivement, on le saura beaucoup plus tard, la fille de l'empereur. Oui, on est là dans une circulation complètement absurde, en un sens. Et c'est ce que vous avez dans cette scène 11 de l'acte 4. C'est dans le château de Strahl. Donc la petite en question, qui est pourchassée par tout le monde, s'est réfugiée dans un coin, et elle dort sur une pierre, sous une tonnelle, et à moitié dévêtue, alors un endroit planté d'arbres au pied de l'enceinte, par devant des lilas arborescents formant une espèce de tonnelle. Dessous, servant de siège, de grosses pierres recouvertes d'une natte de paille. Aux branches, une chemise, des bas en train de sécher. Donc elle a mis ses habits comme ça, accrochés aux arbres, et le comte Strahl arrive, donc elle est couchée, repose et dort, c'est l'indication scénique. Apparaît le comte de Strahl. Donc, il y a une part que je ne vous lis pas, et ça commence ici. Je ne peux plus voir cela, c'est une pitié. Cette fille, née pour faire le bonheur du plus beau et du plus riche bourgeois de Swab, oui, je veux savoir pourquoi je suis condamné à la traîner partout derrière moi comme la dernière des catins. Je veux savoir pourquoi elle me suit comme un chien à travers l'eau et le feu, moi qui ne possède que les armes de mon nom. Il ne s'agit point là des seuls élans d'un cœur affectueux. C'est le démon lui-même, sans doute, qui fait souffler dans son âme ce vent de folie. Chaque fois que je lui demandais pourquoi elle avait eu si peur la première fois en me voyant à Hybron, Catherine m'a regardé d'un air vague et m'a répondu « Ah, monseigneur, vous le savez bien. » La voici. En vérité, quand je la vois ainsi reposée, les joues toutes roses et ses petites mains jointes, je me sens devenir doux comme une femme et mes larmes coulent. Que je meure si elle ne m'a point pardonné de l'avoir menacée du fouet. Que dis-je? S'il ne s'est pas endormi en priant pour moi qu'il est maltraité. Mais faisons vite, avant que Kotchak, c'est son écuyer, ne survienne. Il m'a dit trois choses. Tout d'abord qu'elle dort comme une marmotte, puis qu'elle rêve toujours comme un chien de chasse. Et enfin, qu'elle parle pendant son sommeil. C'est là-dessus que se fondent tous mes espoirs. Si je commets un péché, que le Seigneur me pardonne. Donc, il va se livrer à une séance de thérapie, de somnambulisme. Voyons, on est là dans un monde qu'on connaît maintenant, mais à l'époque, ça paraît tout à fait bizarre. Il s'agenouille auprès de Catherine et l'entoure doucement de ses bras. Elle fait un mouvement comme si elle allait se réveiller, mais retombe aussitôt dans le sommeil. Le comte, tu dors, petite Catherine? Non, monseigneur. Pourtant, tes paupières sont closes. Mes paupières? Oui, et bien closes, me semble-t-il. Ne dis donc pas de bêtises. Comment? Tu aurais les yeux ouverts? Grands ouverts! Autant que je puis les ouvrir, et je te vois, monseigneur, tu es à cheval! Ah oui, sur l'Alban, n'est-ce pas? Mais non, sur ton cheval blanc. Où es-tu donc, mon enfant? Dis-le-moi. Je suis dans une belle prairie, toute verte et pleine de fleurs. Oui, des myosotis, des pâquerettes. Et là, des violettes, tant et plus. Regarde, regarde. Je vais descendre de cheval et m'asseoir dans l'herbe à côté de toi. Tu veux bien, Catherine? Oui, monseigneur. Criant comme pour appeler. Hola, Gottschalk! Où pourrais-je laisser mon cheval, Gottschalk? Mais où es-tu? Va, laisse ton cheval. Elle ne se sauvera pas, la brave bête. Le comte souriant. Crois-tu? Un silence. Il fait du bruit avec son armure. Ma chère petite Catherine, il lui prend la main. Monseigneur, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Certes, de tout mon cœur. Mais moi, vois-tu, moi je ne t'aime pas du tout. Catherine avec un sourire. Oh, le coquin. Comte d'Estrade. Coquin? Moi? J'espère. Ne dis pas de bêtises, tu es amoureux, amoureux de moi comme un tourtereau. Comme un tourtereau? En vérité, je crois que tu es... Qu'est-ce que tu dis? Elle y croit de tout son cœur. Soit, jouons le jeu. Catherine, mais s'il est comme tu le dis, eh bien, que va-t-il se passer? Ce qui va se passer? Oui, y as-tu seulement songé? Bien sûr. Que veux-tu dire? L'année prochaine, à Pâques, tu m'épouseras. Le comte d'Estrade, réprimant un sourire. Tiens, t'épouser? En vérité, j'en savais rien. La petite Catherine, voilà. Et qui t'a dit cela? C'est Marianne. Ah oui, Marianne, qui est-ce, Marianne? La servante qui faisait le ménage. Et la servante, elle, le tenait de qui? Marianne l'a vue dans le plomb qu'elle avait fondu en secret pour moi la nuit de la Saint-Sylvestre. Tu m'en diras tant. Et quelle fut sa prophétie? Elle disait, tu seras l'épouse d'un très beau et très noble chevalier. Et toi, tu t'imagines, n'est-ce pas, que c'est moi le chevalier? Oui, monseigneur. Mon calcul, mon enfant, pardon, ne serait-ce pas plutôt un autre, le chevalier Flamberg? Non, 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 oh non! Pourquoi non? Parle! La nuit de la Saint-Sylvestre, alors que j'allais m'endormir après l'oracle du plomb fondu, j'ai supplié Dieu, si Marianne avait dit vrai, de me faire voir le chevalier en songe. Et à minuit sonnant, voici que tu m'apparus en personne, tel que je te vois en ce moment. Tu venais à moi, plein d'amour, saluer ta fiancée. Moi? Mais je n'en sais rien, doux enfants, et quand donc cela se serait-il passé? La nuit de Saint-Sylvestre, à la prochaine Saint-Sylvestre, il y aura 2 ans. C'était au château de Stral? Non, à Heilbronn, dans ta chambrette, où je dors. Pardon, non, à Heilbronn, dans la chambrette, où je dors. C'est Catherine qui parle. Le comte. Que me racontes-tu là, mon enfant? J'étais au château de Stral, dans mon lit, et malade à mourir. Un silence, Catherine soupire, bouge et murmure confusément. Que dis-tu? Quoi donc? Eh bien, que dis-tu? Moi, je t'ai rien dit. Le comte de Stral à part. Par le ciel, c'est étrange, la nuit de Saint-Sylvestre. Catherine, parle-moi encore. Suis-je venu seul? Non, monseigneur. Non, mais qui était avec moi? Voyons. Eh bien, parle. Tu ne le sais pas? Sur ma vie, je ne le sais plus. Un ange, mon très noble Seigneur, était avec toi. Il était vêtu de lumière. Oh, mon Dieu, comme cela brillait, comme cela scintillait. C'est lui qui, par la main, t'a mené jusqu'à moi. La regardant fixement, sur mon homme, je crois que tu dis vrai. Alors c'est là qu'il commence à raccorder les deux rêves. Oui, mon Seigneur. Tu reposais sur un oreiller de crin, dans des draps blancs, sous une couverture de laine rouge. Oui, c'est vrai. Dans ta simple petite chemise, dans ma petite chemise. Et oui, tu as crié Marianne, j'ai crié Marianne, Christine, venez vite. Les yeux noirs, grands ouverts, tu m'as regardé. Oui, je croyais que c'était un ange, que c'était un songe. Et doucement, tremblant de tous tes membres, tu sortis de ton lit, tu tombas à mes pieds. Et je murmurais, et tu as murmuré, mon très noble Seigneur. Tu vois bien, et l'ange t'a montré la marque de naissance, que le ciel me protège. Tu portes cette marque? Oui, bien sûr. Tu arraches son fichu. Où cela? Au cou? S'il te plaît, je t'en prie. Elle commence à remuer. Comte de Stral, ô puissance céleste, et lorsque je te prie par le menton pour contempler ton visage, oui, l'importune Marianne est arrivée avec de la lumière et tout a disparu. J'étais couché par terre au pied du lit et la servante s'est moquée de moi, etc. Donc, vous voyez, les deux rêves se raccordent et ça ne peut que se terminer par le mariage. La marque, bien sûr, c'est la preuve bien connue des mélodrames, mais. C'est ça le monde de classe, c'est ce monde-là, ce monde du rêve où les choses existent parce qu'elles sont rêvées. Et si elles ne sont pas rêvées, elles n'existent pas. Le monde de la bataille, le monde de la relation ordinaire, c'est rien. Donc, c'est évidemment très inquiétant pour une conduite, disons, d'une action militaire. Un homme qui est ailleurs. Bon, alors...
Un autre aspect de Kais, c'est donc celui que vous avez énoncé au début, l'aristocrate,
oui.
Conseiller royal.
Oui. Alors, il est étonnant parce qu'il n'est rien. C'est un petit aristocrate et il est, pour ainsi dire, vous voyez, au-dessus de sa condition, et il estime pouvoir donner des conseils au roi et avoir, de la part du roi, droit à une reconnaissance. Et il y a dans une lettre, c'est très court, il y a un mot de lui qui est assez significatif, c'est ceci. Il se plaint de la vie et il estime que la vie ne mérite pas d'être vécue parce que le roi n'est pas digne d'être, disons, soutenu du fait qu'il a fait alliance avec Napoléon, qu'il a accepté le fameux accord de Tilsit. Autrement dit, il établit une liaison entre son destin à lui, moi je ne mérite plus de vivre, j'ai plus besoin de vivre, étant donné que le roi, eh bien, c'est un Jean Foutre qui est incapable de défendre les intérêts de la Prusse. Cette liaison intimité personnelle avec collectivité politique, c'est tout à fait étrange, et il le dit, l'alliance que le roi conclut en ce moment avec les Français n'est pas non plus pour me retenir à la vie. Quand le roi s'abaisse à pareille alliance, comment rester plus longtemps auprès de lui ? Ouais, c'est comme s'il était général en chef et qu'on attend son avis. Donc vous voyez, ça c'est le personnage qui vogue dans un autre monde. Alors,
celui où on rencontre la mort, cet autre monde.
C'est donc un mort, mais attention, ça n'est pas du tout une mort négative. C'est ça qui est très difficile à concevoir. C'est ni une mort châtiment, ni une mort récompense, selon la théologie chrétienne. C'est un peu la mort telle que l'a conçue Genève. Moi, j'établis un rapport entre la mort telle qu'elle apparaît dans le Funambule. Il faut dire que je me suis intéressé à Genève, alors c'est peut-être une espèce de déformation professionnelle, mais il y a cette idée que la mort, c'est un mieux-être, c'est un plus-être. C'est évidemment invérifiable, mais c'est quelque chose où il n'y a aucune espèce de négativité à craindre. On est là promis à un paradis, mais ce n'est pas un paradis, il ne faut pas utiliser ce mot, puisque justement, il n'y a pas de paradis. C'est inconnaissable, mais c'est tout. C'est le tout de la vie, il est dans la mort.
Très bien. Et alors maintenant, on peut donc aborder la pièce elle-même. Et nous avons une chose curieuse, c'est qu'il y a une bataille, et il y a différents récits de la bataille. C'est ça que nous allons entendre maintenant.
Oui, il y a différents récits de la bataille. Selon, et ça c'est évidemment assez intéressant, et ce n'est pas une très grande nouveauté pour nous maintenant, mais ça l'était à l'époque, c'est-à-dire c'est les points de vue. C'est un peu comme, vous savez, le récit de Waterloo chez Stendhal, c'est-à-dire qu'on a celui qui est dedans, mais il n'en voit pas grand-chose, et puis il en voit un petit bout, et il se trompe. C'est une série d'erreurs, finalement. Les récits de bataille, c'est une série d'erreurs en cascade.
Donc je vais commencer peut-être par une tirade fameuse du prince de Hombourg, juste avant que la bataille ne soit livrée. Et qui dit assez exemplairement, je pense, l'état d'enthousiasme et d'exaltation dans lequel il se trouve. Le prince de Hombourg s'avançant sur le devant de la scène. « Et maintenant, viens à moi sur ta sphère, formidable. Toi dont la brise aujourd'hui soulève l'écharpe comme la voile d'un bateau. Tu as, fortune, déjà effleuré mes boucles. Dans ton vol, souriante, tu m'as, en passant, jeté un gage sorti de ta corne d'abondance. » Aujourd'hui, enfant des dieux, je vais te chercher, fugitive, te saisir sur le champ de bataille et renverser tout entier ton trésor à mes pieds. Quand bien même par des chaînes de fer, serais-tu cette fois attaché au char victorieux des Suédois.
Alors là, il est vraiment général en chef, plein de lui-même, et c'est pas le rêve, c'est la gloire.
Maintenant, un autre texte.
Alors, oui, ben, donc, sur ce, la bataille a lieu.
Oui, oui.
Et la bataille est évoquée, en fait, par deux récits successifs, puisque l'un des éléments, d'ailleurs, qui... on apprend d'abord que l'électeur est mort pendant la bataille.
Oui, il y avait un cheval blanc, et le cheval blanc a été abattu. Donc, liaison du canasson et du cavalier, donc si l'un est mort, l'autre aussi.
Et donc c'est un cavalier qui vient annoncer à l'électrice et à Nathalie la mort de l'électeur. Donc l'électrice parle ainsi, « Rapporte-moi comment il est tombé. Que tes paroles soient comme l'éclair qui frappe le voyageur et pour la dernière fois lui fait apparaître le monde couleur pourpre. Et que la nuit s'abatte sur ma tête lorsque tu auras parlé. » Le prince de Hombourg, sitôt que l'ennemi pressé par Troux fut ébranlé dans ses positions, s'était avancé dans la plaine en direction de Wrangel. Avec sa cavalerie, il avait déjà enfoncé deux lignes et les avait anéanties dans la débandade lorsqu'il se heurta à une redoute. Une pluie de fer si meurtrière s'abattit sur lui que, tel un champ de blé sous l'orage, sa troupe de cavaliers fut couchée sur le flanc. Il dut faire halte entre les bosquets et les collines pour rassembler son corps de cavalerie dispersé. À cet instant, surgit de la poussière, nous apercevons notre souverain qui, parmi les drapeaux du corps de Troux, avance sur l'ennemi. Il était superbe sur son cheval blanc, illuminant sous le soleil radieux le chemin de la victoire. À cette vue, nous nous rassemblons tous, sur le flanc d'une colline, très inquiets de le voir ainsi au milieu du feu, lorsque soudain notre prince, cheval et cavalier, sous nos yeux, s'abat dans la poussière. Deux enseignes se sont précipitées sur lui pour le couvrir de leur drapeau. Là-dessus, à ce spectacle terrifiant, le cœur du prince est saisi d'une immense douleur. Pareil à un ours, éperonné par la fureur et la vengeance, il s'élance avec nous sur les retranchements. Le fossé et le remblai qui les protègent sont franchis d'un seul élan, les occupants renversés, dispersés sur le champ de bataille, anéantis. Canons, drapeaux, tambours et étendards, tout l'attirail de guerre des Suédois est pris. Et si la tête de pont sur la Rhine ne nous avait empêchés de les exterminer, il n'en resterait pas un seul pour dire au foyer de ses pères « À Ferbéline, j'ai vu tomber le héros. » Et l'électrice conclut, « Une victoire trop chère payée. Je ne l'aime pas. Rendez-moi le prix qu'elle a coûté. » Avant de s'évanouir.
Ah oui, alors, tout va bien quand même, puisque c'était une mauvaise nouvelle, une fausse nouvelle. Deuxième récit.
Et donc arrive un autre participant à la bataille. « Écoutez l'histoire la plus émouvante qu'Oreille ait jamais entendue. Le souverain, sourd à tout avertissement, montait une fois de plus son cheval resplendissant de blancheur. » Que Froben a dernièrement acquis pour lui en Angleterre. Et comme ce fut toujours le cas, il était à nouveau la cible des boulets de canon ennemis. À peine ceux de sa suite pouvaient-ils s'approcher de lui dans un rayon de 100 pas. Grenades, boulets et mitrailles roulaient vers lui comme le fleuve de la mort. Et tout ce qui était vivant fuyait vers la rive. Lui seul, intrépide nageur, affrontait le courant, et saluant sans cesse ses amis de la main, remontait sans crainte vers les hauteurs d'où jaillissait la source. L'écuyer Froben, qui, dans l'escorte, était le premier derrière lui, me lance. Maudite soit aujourd'hui la splendeur de ce cheval qu'on vient d'acheter une fortune à Londres. Je donnerais bien 50 ducats pour couvrir sa robe d'un gris souris. Il s'approche de lui, fou d'inquiétude, et dit « Altesse, ton cheval est rétif, permets-moi de le reprendre pour un peu de dressage encore. » À ces mots, il descend de son alezan et saisit le cheval de son Altesse par la bride. Avec un sourire entendu, son Altesse met pied à terre et réplique « L'art que tu veux lui enseigner, mon brave, il ne l'apprendra que difficilement tant qu'il fait jour. Emmène-le loin d'ici, je te prie, derrière ces collines, où l'ennemi ne sera pas attentif à son défaut. » Sur ce, il enfourche l'alezan que montait Froben et s'en retourne là où son devoir l'appelle. Mais à peine Froben est-il monté en selle, que déjà une mitraille meurtrière tirée de la redoute jette à terre le cheval et son cavalier. Il tombe dans la poussière, victime de sa fidélité, et plus aucun son n'est sorti de sa bouche.
Voilà. Ça, c'est l'aspect guerrier, historique, politique, pas encore tout à fait politique.
On aborde maintenant, d'ailleurs, cet aspect de la pièce politique.
Oui.
Ah. Il y a d'abord tout le problème de la loi et de la famille. C'est-à-dire de... La loi est absolue, c'est un système ancien, et il faut lui être fidèle avant tout, mais en même temps, il y a le système de relations de famille qui intervient pour exercer des pressions et rendre l'application de la loi difficile. Oui.
Alors ça, c'est une chose. Il y a vraiment, d'un côté, l'impératif kantien. Kant avait été parmi les éducateurs, enfin, ceux que... Car il s'admirait, il avait suivi d'ailleurs quelques leçons, paraît-il. Donc les lecteurs représentent cette notion impersonnelle, absolue de la loi. Mais, naturellement, cette liaison de famille dont j'ai parlé brouille les cartes et il n'y a pas moyen pour le prince de Hambourg d'entrer dans ce système. Il n'y a véritablement aucun moyen. Même quand il comprendra un peu de quoi il s'agit, il se trompera encore. Donc ça, c'est le premier obstacle et on va lire un texte. Et puis il y a un deuxième obstacle, c'est qu'il y a, de la part de Kleist, en tant que personne privée, en tant que Kleist, et il y a dans la pièce représentée par à la fois certains généraux et par, disons, l'ensemble du corps d'armée, il y a une autre conception de la loi. Il y a une autre vision de l'obéissance. Et ça fait donc, vous voyez, un double obstacle à la suprématie, sans discussion, absolue de la loi. Donc, on va vous lire deux textes. D'abord, le risque de confusion entre l'anonymat de la loi et les attaches familiales des uns et des autres.
Oui, donc il s'agit d'un échange entre le prince de Hambourg qui se trouve en prison, une fois qu'il a accepté dans un premier temps de se soumettre à la décision de son oncle. Donc il est en prison, il reçoit la visite d'un personnage qui est son meilleur ami, disons, Hohenzollern, qui est un militaire comme lui.
Et qui appartient à la grande famille de Hohenzollern, c'est-à-dire que c'est la famille régnante au moment même où la pièce est écrite.
Que penses-tu, Arthur, de ta situation depuis qu'elle a si étrangement changé ? Et le prince répond, « Moi, ma foi, la même chose que toi, et Goltz, et même les juges. L'électeur a fait ce que le devoir commandait, et à présent il va obéir de la même façon à son cœur. Tu as commis une faute, me dira-t-il gravement. Peut-être un mot pour parler de peine de mort et de forteresse. Cependant, je te rends ta liberté. Et autour de l'épée qui, pour lui, a conquis la victoire, peut-être enroulera-t-il même un signe de sa grâce. » S'il n'en est rien, tant pis, car je ne l'ai pas mérité. Oh, Arthur. Eh bien, en es-tu si sûr ? Je l'imagine ainsi. Il m'aime, je le sais. Il m'aime comme un fils. Depuis ma plus tendre enfance, son cœur mille fois me l'a prouvé. Quel est le doute qui te tourmente ? N'a-t-il pas semblé se réjouir presque plus que moi-même de la montée de ma jeune gloire ? Ne suis-je pas tout ce que je suis par lui ? Et lui, il irait écraser impitoyablement dans la poussière, jaloux, la jeune plante qu'il a lui-même cultivée, pour la simple raison qu'elle a fleuri trop vite et trop abondamment. Son pire ennemi ne parviendrait pas à m'en convaincre, toi encore moins, qui l'aime et le connais. Tu as comparu devant la cour martiale, Arthur, et tu y crois encore. Parce que j'ai comparu, justement. Par le Dieu vivant, personne n'irait aussi loin s'il n'avait pas l'intention de faire grâce. C'est là, précisément, à la barre du tribunal, c'est là que j'ai repris confiance. Était-ce donc un crime passible de mort que d'avoir réduit en poussière la puissance suédoise 2 minutes avant que l'ordre n'en fût donné ? Et quel autre forfait pèserait sur ma poitrine ? Comment pourrait-il me convier au banc des accusés, devant des juges sans cœur, qui, semblables à des chouettes, me chantent sans cesse le chant funèbre de la balle qui m'exécutera, s'il n'avait l'intention de faire irruption tel un dieu et de proclamer sa clémence de souverain. Non, mon ami, s'il amasse tous ces nuages noirs au-dessus de ma tête, c'est pour m'apparaître comme le soleil, qui se lève rayonnant et transperce leur brume. Et ce plaisir, en vérité, je peux bien le lui accorder. La cour martiale, cependant, a rendu son verdict, dit-on. Oui, je sais, la peine de mort. Tu le sais déjà ? Goltz, qui a assisté aux délibérations du conseil de guerre, m'a rapporté la sentence. Mais alors, juste ciel, cela ne t'émeut pas ? Moi, pas le moins du monde. Enragé. Et sur quoi se fonde ton assurance ? Sur le sentiment que j'ai de lui. Je t'en prie, laisse-moi, à quoi bon me tourmenter avec des doutes inutiles ? La cour martiale devait se prononcer pour la peine de mort. Telle est la loi selon laquelle elle juge. Mais avant qu'il fasse exécuter une telle sentence, avant qu'il livre au signal d'un simple mouchoir ce cœur qu'il aime loyalement à la balle d'un pistolet, avant cela, vois-tu, il s'ouvrirait plutôt la poitrine et laisserait son sang tomber goutte après goutte dans la poussière. Mais Arthur, je t'assure, le maréchal vient de lui transmettre au château, et c'est étrange, la sentence de mort. Et lui, au lieu de te gracier comme le jugement lui en laisse la liberté, il a ordonné qu'on la lui soumette pour la signer. Qui t'a dit ça ? Lui-même, le maréchal. Comme il descendait l'escalier après l'entrevue, en me voyant bouleversé, il a ajouté que rien n'était encore perdu, que demain serait un autre jour pour te gracier. Mais ses lèvres blêmes démentaient les mots qu'elle prononçait et disaient « Je crains que non ». Il pourrait, non, rouler dans son cœur de si monstrueuses décisions pour un défaut à peine perceptible dans le diamant qu'il vient de recevoir, écraser dans la poussière celui qui lui en fait don. Un acte qui rendrait blanc comme neige le dé d'Alger, qui ornerait Sardanapale d'ailes d'argent semblables à celles des chérubins, et qui expédierait à la droite de Dieu toute la lignée des tyrans de la Rome antique, les déclarant innocents comme des enfants qui meurent sur le sein de leur mère. Il faut, mon ami, t'en convaincre.
Et justement, il n'y a pas moyen. Parce qu'il va trouver une explication à ce qui est assez évident. On se dit, ça y est, il a compris. Mais non. Il va croire encore que c'est un lien personnel, c'est un lien de famille qui fait qu'on le condamne à mort. Parce que, croit-il, j'en ai dit un mot tout à l'heure, avec allusion à Marie-Thérèse d'Autriche, c'est-à-dire à Marie-Louise d'Autriche, à savoir que Nathalie peut être la monnaie d'échange en épousant le roi de Suède, on en finirait avec ces guerres indéfinies, et dans cette mesure, eh bien, le prince de Hambourg est gênant parce que il y a eu un échange amoureux entre eux juste après la victoire. Il a cru que l'électeur était mort. Il a fait des offres de service à Nathalie en lui disant « je te protégerai » et puis peut-être un peu plus. Et il se voit déjà électeur lui-même. Il demande à l'électrice de lui servir de marraine. L'électrice lui dit « patience, patience », mais malgré tout, elle est embarquée dans cet accord prénuptial. Et donc, il pense que c'est ça la véritable raison. Il n'y a pas moyen de lui en faire des mortes. Et donc, il faudra attendre encore très longtemps une sorte de conversion après la nuit obscure dans laquelle il est plongé, après cette révélation de cette réalité mortifère, on peut dire. Donc, il faut attendre encore l'acte 4. Mais pour ce qui est de la conception autre de la loi, il y a un grand texte qui est prononcé par le colonel Kotzwitz, qui est extrêmement intéressant parce que c'est là qu'on voit ce que Kleist pense, et il le pense ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des textes de lui, des textes de réflexion politique, qu'on n'a pas l'occasion de lire ce soir, mais où il dit clairement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de concevoir la loi, une façon barbare et une façon humaine. C'était déjà sensible dans sa lettre de démission, si vous vous souvenez. Donc, c'est le fameux texte de l'acte 5 où Kotzwitz, page 170, va dire ce qu'il pense. Alors, c'est d'autant plus étonnant que Kotzwitz, c'est le militaire borné, la main sur la couture du pantalon, salut, etc. Donc, il y a une conversion aussi de Kotzwitz. Donc, on peut dire qu'il y a eu dans l'air qui traverse cette situation quelque chose qui les a complètement tous bouleversés. Alors, voici.
Seigneur, la loi la plus haute, la loi suprême, celle qui doit agir dans le cœur de tes généraux, ce n'est pas la lettre de ta volonté, c'est la patrie, c'est la couronne, c'est toi-même, ta tête qui la porte. Que t'importe, je te prie, la règle que suit l'ennemi dans la bataille, pourvu qu'il tombe devant toi avec tous ses drapeaux. La règle suprême, c'est celle qui le vainc. De ton armée, si ardemment attachée à toi, veux-tu faire un instrument semblable à l'épée qui reste sans vie dans le fourreau d'or de ta ceinture ? Quel pauvre esprit qui ne connaît rien aux astres a le premier répandu un tel enseignement ? Quelle méchante politique à courte vue qui, pour un cas où le sentiment s'avère nuisible, en oublie 10 autres dans le cours des choses où seul le sentiment peut sauver. Est-ce que le jour de la bataille, je verse pour toi mon sang dans la poussière à cause de la solde, fût-elle d'argent ou de gloire ? Dieu m'en préserve, il est trop précieux pour cela. Comment ? Mon plaisir, ma joie, celle que je goûte librement et pour moi seul, en silence, c'est ta splendeur, ta magnificence. C'est la gloire croissante de ton illustre nom. C'est là le salaire pour lequel je vends mon cœur. Supposons que pour cette victoire fortuite, tu condamnes le prince irrévocablement, et que moi, demain, je rencontre de façon tout aussi fortuite la victoire, quelque part entre monts et forêts, avec mes escadrons, comme un berger. Par Dieu, je serais un coquin si je ne répétais pas hardiment l'action du prince. Et si tu disais alors, le livre des lois à la main, « Kodvitz, tu as joué ta tête », je répondrais « Je le savais, Altesse. Prends-la, la voici. Lorsque j'ai prêté serment pour me lier à ta couronne, corps et âme, je n'ai pas exclu ma tête, et je ne te donnerai rien qui ne t'appartienne déjà. » Ce à quoi l'électeur répond « Vieil original, je n'aurai jamais raison de toi. Tes paroles me séduisent avec leur rhétorique rusée. Moi qui te suis tout dévoué, tu le sais bien. Je vais faire appel à un avocat pour mettre fin à cette dispute qui saura défendre ma cause. » Il sonne, un serviteur entre. Le prince de Hombourg, qu'on aille le chercher dans sa prison.
Alors,
et je finis juste.
T'es fini, vas-y.
Il t'apprendra, lui, tu peux en être sûr, ce que sont la discipline militaire et l'obéissance. Du moins m'a-t-il adressé une lettre qui dit autre chose que cet argucieux concept de liberté que tu viens de m'exposer comme un écolier.
Alors là, il faut faire marche arrière, remonter à la scène de la désespérance absolue qui a été la scène absolument scandaleuse que les militaires, évidemment, ont trouvé ignoble, que la princesse de Hombourg a trouvé absolument insupportable, insoutenable, d'où l'interdiction de publication, dont l'interdiction de représentation. Donc le malheureux Claes s'est fait littéralement fusiller mentalement pour avoir écrit cette scène qui est la scène où il se défait complètement quand il apprend que réellement il va être fusillé. C'est avant sa conversion, c'est avant ce que Kodvitz dit lui-même, c'est-à-dire que s'il y avait entre le soldat et son chef une communauté, c'est la fameuse notion de communauté, d'esprit, qui lie d'une façon, on pourrait dire, intime, ce qui n'est pas intime, ce qui est la loi militaire, si les deux étaient liés, à ce moment-là, il y aurait possibilité de surmonter la fameuse désobéissance et d'en faire un élément de réussite. Et c'est ça que va connaître le prince de Hombourg, mais il lui faut pour ça un médiateur. Et ce médiateur, ça va être Nathalie, dont on ne fait pas assez de cas en général dans les mises en scène. C'est quand même elle qui est l'intercessrice de cette, on peut dire, conversion totale, où la mort refusée, la mort ignoble, la mort d'un fusillé pour avoir désobéi sur un champ de bataille, vous voyez combien ça parle à des esprits comme les militaires, par exemple, de la guerre de 14, les déserteurs, ceux qui refusent d'aller au combat, vous savez tout ce que ça a fait couler comme encre, comme procédure, on est en train de les réhabiliter maintenant. Donc, être fusillé pour avoir commis une erreur sur le champ de bataille, c'est honteux, mais mourir en acceptant la mort par gloire personnelle, par héroïsme égoïste, pour ainsi dire, ça c'est tout à fait autre chose. Et c'est là qu'apparaît cette fameuse notion de mort heureuse que Kleist, en tant que personne privée, a développée très clairement dans sa correspondance. Ce qui me fait dire que sans la lecture de la correspondance, on ne peut pas vraiment comprendre à quel degré cette mort est positive. Alors, on a à lire justement cette conciliation entre le prince et l'électeur qui apparaît tout à fait à la fin, mais avant, peut-être, faudrait-il passer par le personnage de Nathalie.
Donc, on va consacrer un petit moment à cette jeune femme.
Alors, cette jeune femme est tout à fait bizarre, si on peut dire, parce qu'elle est à la fois jeune femme et colonel de dragons. C'est-à-dire qu'elle a un régiment à sa disposition. Elle est, oui, aussi dans une position ambiguë. Elle est à la fois personne privée et personne militaire. Donc, elle va ruser. C'est une manœuvrière. Elle va mentir. Ce qui est assez laid dans un système militaire. C'est-à-dire que lui, le prince, il a agi comme un jeune chien. Il a fait ce qu'il ne fallait pas faire. Et elle, elle va essayer d'influencer son oncle électeur en lui faisant peur, en lui laissant entendre que son régiment de dragons est en train de faire manœuvre pour s'installer au pied du château où se trouve l'électeur. Et naturellement, en armes. Donc tout ça, ça ne plaît pas beaucoup à l'électeur, bien sûr. Alors, là, vous avez une possibilité d'interprétation. Est-ce que l'électeur va dire « Bon, d'accord, je reprends ce que j'ai dit parce que j'ai peur » ou bien est-ce que c'est pour d'autres raisons supérieures ? Je pense que c'est pour d'autres raisons supérieures. Il faut donner sa chance, je pense, au maximum, à la pensée de l'électeur, comme à la pensée de Nathalie, comme à la pensée du prince, et non pas chercher les d'explication circonstancielle et un peu, on pourrait dire, tacticienne. Donc, on va avoir cette Nathalie qui elle-même va d'abord voir l'électeur et le supplier de sauver la peau de son chéri. Bon, elle sait bien que tout le monde le sait, donc elle ne s'en cache pas. Donc ça, elle joue sur la corde sentimentale. Et lui, l'électeur, va lui dire, ben, puisque c'est comme ça, je ne sais pas si on a prévu de lire ce texte, oui, c'est le rôle qu'elle joue en face de l'électeur, c'est qu'elle...
C'est
la page 136, oui. Donc, elle vient voir l'électeur, et apparemment, on est là dans le domaine du mélodrame. C'est-à-dire qu'elle le supplie en pleurant, et lui va pleurer avec elle, en faisant nettement comprendre qu'il y est pour rien, ça lui échappe, la loi, mais en même temps, comme il est quand même le chef, puisque le prince ne supporte pas l'idée d'être fusillé, eh bien, on ne va pas laisser un prince se défaire de cette façon, se démettre de sa qualité d'aristocrate et de militaire, on va signer un papier comme quoi il est libre. Mais évidemment, il y a anguille sous roche.
Ô mon souverain, de quoi t'inquiètes-tu ? Cette patrie, elle ne va pas sous l'impulsion de ta grâce s'effondrer d'un seul coup. Au contraire, ce que toi, formé dans l'armée, tu appelles désordre, cette décision d'abolir délibérément, dans ce cas précis, la sentence des juges, m'apparaît comme le plus beau des commandements. La loi martiale, je le sais, doit régner, mais la douceur des sentiments a aussi droit de cité. La patrie que tu as fondée pour nous, mon oncle vénéré, se dresse telle une citadelle. Elle supportera, n'en doutons pas, bien d'autres tempêtes que cette victoire fortuite. Elle sera magnifiquement achevée, embellie à l'avenir par la main de ta descendance, qui, lui ajoutant des créneaux, en fera un château féerique. Elle sera la joie des amis et la terreur des ennemis. Elle n'a nul besoin du ciment froid et triste que constituerait le sang d'un ami pour survivre au splendide et paisible automne de mon oncle.
Ton cousin Hombourg pense-t-il de la sorte ?
Mon cousin Hombourg ?
Pense-t-il qu'il importe peu pour la patrie qui règne l'arbitraire ou la loi ?
Ah, il est si jeune.
Eh bien ?
Ah, mon cher oncle, je n'ai que mes larmes pour répondre.
Pourquoi, ma petite fille ? Que s'est-il passé ?
Il ne pense plus qu'à une chose à présent, son salut. Les canons des fusils épaulés, braqués sur lui, sont si effroyables à ses yeux qu'effaré, pris de vertige, tous les désirs, hormis celui de vivre, se sont tus en lui. Sous les éclairs et le tonnerre, il pourrait voir sombrer tout le Brandebourg, qu'il ne demanderait même pas que se passe-t-il. Ah, quel cœur héroïque tu as brisé !
Elle se détourne et pleure. L'électeur au comble de l'étonnement. Non, ma très chère Nathalie, c'est impossible, voyons. Il implore sa grâce.
Ah, si seulement tu ne l'avais jamais, jamais condamné.
Non, dis-moi, il implore sa grâce. Dieu du ciel, que s'est-il passé, ma chère enfant ? Pourquoi pleures-tu ? Lui as-tu parlé ? Dis-moi tout, lui as-tu parlé ?
À l'instant même, dans les appartements de ma tante, où il est arrivé, vois-tu, en manteau et chapeau. Furtivement, à la faveur du crépuscule, hagard et farouche, honteux, sans aucune dignité, spectacle affligeant, pitoyable, qu'un homme que l'histoire célèbre en héros pût sombrer en pareille détresse, jamais je ne l'aurais cru. Regarde-moi, je suis une femme et je recule d'horreur à la vue d'un ver qui s'approche de mon talon. Et pourtant, même sous l'aspect d'un lion horrible, la mort ne me trouverait pas à ce point broyée, désemparée, dépourvue de tout héroïsme. Ah, qu'est-ce que la grandeur, la gloire des hommes !
Eh bien, par le Dieu du ciel et de la terre, courage, mon enfant. Il est libre.
Comment, mon souverain et maître ?
Il est gracié. Je vais sur le champ le lui faire savoir.
Oh, mon oncle bien-aimé, est-ce vrai ?
Tu m'as bien entendu.
Il serait pardonné ? Il ne va pas mourir ?
J'en fais serment. Je te le jure. Comment pourrais-je m'opposer à l'opinion d'un tel guerrier ? Tu n'ignores pas que j'éprouve au fond de moi un très grand respect pour ses sentiments. S'il peut estimer que le verdict est injuste, je casse le jugement, il est libre. Alors évidemment, il va rédiger un papier en disant « Si vous estimez que le verdict est injuste, vous êtes libre. » Mais justement, c'est là que le retournement total va s'opérer. Et donc, c'est là que Nathalie revient voir son cousin, et en même temps, amoureux, et va lui annoncer cela. Alors c'est ce que vous allez entendre.
Du coup, je vais juste commencer par lire la lettre que Hombourg lui-même reçoit en prison, qui est donc ce dont vient parler Michel, la lettre écrite par l'électeur, qui oui. quelque part le libère. « Mon prince de Hombourg, lorsque je vous fis mettre aux arrêts en raison de votre attaque prématurée, je ne croyais faire que mon devoir et compter sur votre propre assentiment. Si vous estimez avoir été victime d'une injustice, faites-le-moi savoir en deux mots, je vous prie. Je vous renverrai sur le champ votre épée. » Donc ensuite, évidemment, le prince de Hombourg perçoit tout de suite l'ambiguïté qu'il y a dans cette décision que vient de prendre l'électeur.
Il y a un jeu aussi un peu, on pourrait dire, comique. C'est-à-dire, il veut relire la lettre, mais Nathalie ne veut pas, parce que c'est bien que le prince de Hombourg a tout compris. Donc, c'est un peu du fédo, mais ça ne dure pas très longtemps. Mais...
Je t'en prie, ne me pose pas de questions. Tu n'as pas bien pesé le contenu de cette lettre. Qu'il ait été injuste envers moi, ce qu'il me demande, je ne puis lui écrire. Si tu me forces à lui répondre dans l'état d'esprit où je suis, j'écris « Par Dieu, tu me fais justice. » Es-tu fou ? Qu'est-ce que tu viens de dire là ? Attends un instant, il me semble... Que dis-tu ? Je crois savoir ce qu'il me faut écrire. Mon tendre ami, je salue l'émotion qui s'est emparée de ton cœur, mais je te jure une chose. Le régiment qui demain, d'une salve de mousquetons, te rendra un dernier hommage, uni, devant la tombe où tu seras enseveli, a d'ores et déjà été désigné. Si tu ne peux, noble comme tu l'es, t'opposer au verdict, demander que la sentence soit levée et faire ce qu'il demande dans cette lettre, alors je puis te l'assurer, il saura se montrer sublime à la hauteur de l'occasion et fera demain, plein de compassion, exécuter la sentence. Qu'importe, face à un homme qui se montre si digne, je ne veux pas être d'une bassesse insigne. Je suis coupable d'une faute grave, je le reconnais assurément. S'il ne peut me pardonner qu'au prix d'un démêlé, je préfère ne rien savoir de sa grâce. Nathalie l'embrasse. Prends ce baiser. Quand bien même 12 balles devraient à présent te coucher dans la poussière, je ne pourrais m'empêcher de me réjouir, de pleurer et de dire « tu me plais ». Cependant, si tu suis la voie de ton cœur, il m'est permis de suivre la mienne. Et sur ce, elle appelle un messager pour c'est là que justement lui transmettre l'ordre.
Cette petite histoire de manœuvre de son régiment. Il y a une chose qui est assez curieuse, c'est qu'il y a une espèce d'oxymore, de liaison des contraires, que les éditeurs n'ont pas compris, et qu'ils ont attribué à une faute de copie. C'est la dernière phrase du texte de Nathalie quand elle dit « Alors, je puis te l'assurer. Il saura se montrer sublime à la hauteur de l'occasion et fera demain, plein de compassion, exécuter la sentence. » Autrement dit, il te fera tuer avec amour. Et c'est ça, et c'est ça. C'est-à-dire que là, la liaison de l'intime et du collectif, de l'anonyme, est faite par elle, mais c'est ça qui est difficile à comprendre et qui n'a pas été compris. On a voulu que ce soit ou d'un côté ou de l'autre, ou du sentiment, ou au contraire de la rigueur prussienne, mais ça n'est pas ni blanc ni noir, c'est une espèce de dialectique qui permet de surmonter les contraires. Et quand les contraires sont surmontés par une sorte d'émulation de gloire entre Nathalie et le prince, il y a véritablement un accord, on pourrait dire cordélien, entre ce nouveau Rodrigue, cette nouvelle chimène, quand elle lui dit « Prends ce baiser, quand bien même 12 balles, m'empêcher de me réjouir et de pleurer et de te dire « Tu me plais ». C'est beau comme phrase. Donc voilà ce que l'on peut tirer de la pièce, mais vous voyez qu'elle est extrêmement ambiguë. Elle l'est moins si on veut lire la correspondance. C'est-à-dire que la correspondance confirme ce que je propose, c'est-à-dire qu'il y a une façon de surmonter le problème, mais pas en haut. C'est-à-dire, non pas en se laissant écraser par la loi martiale, donc transformer en esclave, et c'est le fait de beaucoup de metteurs en scène, d'attaquer l'armée, d'attaquer la loi, d'attaquer la Prusse, d'attaquer l'Allemagne, etc., alors qu'il s'agit de tout à fait autre chose. Il s'agit de la conquête d'une mort heureuse qui concilie à la fois la liaison personnelle avec le lecteur et la liaison, on pourrait dire, officielle avec le devoir. Alors, c'est ce que je voulais vous lire avec quelques textes de sa correspondance, que voici. Il a écrit plusieurs lettres le jour même de son suicide, et il le dit à sa cousine par alliance, qui est à peu près la seule personne avec qui il avait une liaison très intime d'esprit. « Ma très chère Marie, au milieu de cette hymne triomphale entonnée par mon âme en cet instant de ma mort, entendu, cette hymne triomphale entonnée par mon âme en cet instant de ma mort, il me faut encore une fois me souvenir de toi et je me livre à toi autant que je vis. De tout le reste sur terre, de tous les êtres pris dans leur ensemble ou en particulier, mon cœur est complètement détaché. Ah, ma félicité, je te l'assure, est totale. Ma vie s'achève pour moi par la plus magnifique et la plus voluptueuse de toutes les morts. Le tourbillon d'une félicité encore jamais éprouvée m'a emporté, et je ne puis nier que la tombe m'est plus douce que le lit de toutes les impératrices du monde. Puisse Dieu t'appeler bientôt dans ce monde meilleur, où nous pourrons nous serrer sur nos cœurs avec l'amour que les anges savent porter. Et à la même Marie, il écrit une autre lettre aussi étrange. Une fois mort, alors seulement je pourrais vous imaginer revenu à moi avec toute votre amitié. Vous voyez, le moment, on pourrait dire, c'est l'épreuve qualifiante, comme on dit dans les contes, l'épreuve qualifiante qui est celle de la mort, qui permet véritablement de réintégrer la totale amitié qu'il a, amitié amoureuse, qu'il a pour Marie. Alors donc, il dit, « Je vous souhaiterais de mourir, » il s'adresse à Marie, « si vous aviez besoin de cela pour être heureuse. » Et puis après, à une autre personne, il écrit ceci, à vous, avant de s'élever, alors il est avec cette jeune femme qui va se suicider avec lui, ou qu'il va suicider, si on peut dire, avant de s'élever comme deux aéronautes joyeux au-dessus du monde, tous les deux. Quant à nous, nous ne voulons rien savoir des joies de ce monde et ne rêvons que de campagnes célestes et de soleils sous lesquels nous allons errer avec de longues ailes aux épaules. Et à sa sœur, il écrit toujours la veille ou le matin de ce suicide, que le ciel t'accorde une mort rien qu'à moitié semblable à la mienne, quant à la joie et à la sérénité indicible qui l'emplissent. Voilà donc la clé, me semble-t-il, de cette conversion absolue du malheur en bonheur, du, on pourrait dire, de l'exécution militaire en suicide revendiqué et assumé, et c'est pour moi la clé de cette ambiguïté, mais ambiguïté est profonde malgré tout, si on en juge par les mises en scène. Alors c'est là qu'on peut parler.
Mais avant ça, il faut me rappeler quel est le dénouement de la pièce.
Le dénouement de la pièce.
Donc, le nœud ne peut être tranché que brutalement, c'est-à-dire par l'épée, évidemment, selon le mythe, et par conséquent, une nouvelle attaque de l'ennemi fait qu'on vient chercher le prince de Hombourg pour lui demander de prendre la tête des troupes.
Mais attention, on vient lui demander de prendre la tête des troupes une fois qu'il sera fusillé. C'est-à-dire que c'est son image de mort qui va entraîner les soldats à la victoire. Et c'est non seulement son image de mort, mais son image de fiancé perpétuel de Nathalie. Vous voyez dans quel monde bizarre on évolue. C'est-à-dire qu'il est véritablement lui-même en tant que fusillé et fiancé ad aeternum de cette Nathalie qui naturellement disparaît pour lui. Donc ça, c'est le moment où on est encore en suspens. Mais évidemment, ce moment va être dénoué par les dernières scènes où, une fois que le prince a dit oui à sa mort, l'électeur à son tour peut dire oui à son salut. Donc, vous voyez, il y a deux éléments qui se joignent l'un à l'autre, et dans cette mesure, c'est cette sortie par en haut dont je parle, mais est-elle véritablement par en haut? C'est là la question, parce que la fin est extrêmement, disons, silencieuse.
Il y a la dialogue sur le rêve, à ce moment-là, qui est très important.
Alors, le rêve est très important.
On dit, non, dites-moi, Est-ce un rêve ?
Parce que on a affaire à une mise en scène semblable dans la dernière scène à celle de la première scène, c'est-à-dire que pour sauver, mais cette fois-ci vraiment, le prince et lui donner sa gloire, on refait ce qui a été fait en première scène, on lui remet par l'intermédiaire de Nathalie, il a les yeux bandés comme pour être fusillé, vous voyez un peu le sadisme du personnage, donc l'ambiguïté est totale, même pour n'importe qui, il n'y a pas moyen de ne pas se laisser avoir, donc on va à nouveau voir Nathalie remettre la couronne et le collier de l'électeur à ce prince. Et le prince, naturellement, quand on lui enlève son bandeau, qu'il voit ça, il s'évanouit. Donc c'est là qu'il tombe dans ce monde à lui, ce monde de l'ailleurs, ce monde de l'évanouissement, de la somnambulisme, du somnambulisme, et donc il va, pour ainsi dire, disparaître. Il est là, mais sans être là. Alors est-il là comme un futur général qui va se réveiller et va repartir, allons-y, on va leur casser la figure, comme souvent on l'a cru? Ou bien est-ce qu'il va être simplement évanoui, disparu, effacé, écrasé comme une malheureuse, disons comme un malheureux pantin, comme un malheureux rouage que le système prussien a totalement aboli? Ou bien est-ce qu'il s'en va dans son monde à lui? Trois possibilités, pour moi c'est la troisième qui me paraît la meilleure. Mais c'est pas dit clairement. Alors on va lire les dernières lignes si vous voulez, et ces dernières lignes sont rapides parce qu'elles sont, pour ainsi dire, tout en dedans. Alors, c'est Nathalie qui apparaît, mais Nathalie ne s'occupe plus du tout d'elle, il est ailleurs. Donc, alors Strands dit, oui, gloire et bénédiction, tu les as méritées. Alors, remet la couronne, la chaise à la princesse, etc. Donc, Nathalie, ciel, la joie le tue. À ce moment-là, il s'évanouit. Hohenzollern retient le prince. À l'aide, les lecteurs, que le tonnerre des canons le réveille. Coup de canon, une marche militaire, le château s'illumine, code vite, vive le prince de Hambourg! Les officiers, vivat, vivat, vivat! Tous ensemble, au vainqueur de la bataille de Fehrbellin! Silence soudain, le prince de Hambourg. Non, dites-moi, est-ce un rêve? Toujours ce fameux rêve. Et code vite dit, un rêve? Quoi d'autre? Et cette phrase a été souvent comprise complètement à l'envers, en disant non, non, il veut dire que ce n'est pas du tout un rêve. Où il veut dire, oui, ce n'est qu'un rêve. Oui, les ambiguïtés. Plusieurs officiers, au combat, le contre-truc, à la bataille, le maréchal, à la victoire, tous, à bas, tous les ennemis du Brandebourg.
Et donc, ce sont les mises en scène successives et un peu nombreuses qui vont souligner tel ou tel aspect, puissance de la pièce.
Oui.
C'est ce qu'on voulait rappeler brièvement pour finir. Donc, il y a d'abord la grande mise en scène de Jean Villard avec Gérard Philippe.
C'est une grande mise en scène, si on veut bien, mais en fait, il n'y connaissait rien, Gérard Philippe. Il avait demandé à Adamoff de lui trouver une pièce un peu épique dans le genre de la mort de Danton. Et c'est Adamoff qui était germaniste et qui lui a proposé, mais manifestement, ça lui a passablement échappé. C'est-à-dire qu'il a joué. Il a monté le prince de Hambourg dans la lignée, c'est en même temps, dans la lignée du Cid. C'est-à-dire le Cid a été monté en 49-50 et là, ça a été repris en 50-51. Et donc, le prince de Hambourg a été monté bien en 51. Les deux pièces ont été jouées la même saison en Avignon et ensuite, moi, je l'ai vu, le prince de Hambourg, en salle. Mais vous voyez, il y a une espèce de liaison. Alors, deux personnages, bien sûr, Gérard Philippe, imaginez-le, c'est une espèce d'elfe bondissant avec une voix légère, et un corps aérien. Donc, c'est tout le contraire d'un homme qui souffre. Alors, il y a un moment où, et justement c'est très intéressant dans les notes qu'on peut lire sous la plume de Gérard Philippe, il y a un moment où il se rend bien compte qu'il y a un gros risque. C'est le moment où il se défait complètement, où il passe sous, on pourrait dire, il passe sous la table, il lèche le plancher, enfin il est réduit à zéro et il se demande comment faire ça pour ne pas se déconsidérer en tant qu'acteur et ne pas ridiculiser son personnage. Et ça, il le dit dans un texte qui est extrêmement intéressant, qui me paraît plus utile que ce qu'il a dit lui-même sur la pièce en général. Ce qu'il dit sur la pièce en général est extrêmement pauvre. Et ça rend assez bien compte ce que cette pièce proposait dans cette version, c'est-à-dire une espèce d'emportement de jeunesse, d'élan guerrier et patriotique, mais sans chercher beaucoup plus loin. Il dit, si on lui demande, mais quel sentiment vous avez en face de cette pièce? C'est le sentiment de se trouver devant un chef-d'œuvre qui fait que le TNP joue une pièce plutôt qu'une autre. Le thème et l'anecdote importent moins. Ainsi, dans le Prince de Hambourg, il y a un revirement à la fin qui représente une concession de l'auteur à son époque. On sent bien qu'il n'a pas été agréable à Kleist de faire gracier le prince, lequel avait gagné la bataille contre les ordres. Mais qu'importe, à deuxième vue, son héros plus sentimental que raisonnable est follement attachant. C'est un être qui vit et rêve comme l'on peut vivre et rêver sur cette terre. C'est pas du tout ça. Pour moi, c'est pas du tout ça. Si lire le prince comme ça, c'est le réduire à un sous-produit, on pourrait dire, du style.
Alors, ensuite, 20 ans plus tard, il y a la mise en scène avec Bruno Ganz de Stein. Alors, une chose très différente.
Eh oui, bien sûr, parce que il y a un dramaturge qui s'appelle Boto Strauss et qui n'est pas n'importe qui. Ils ont laissé des notes extrêmement intéressantes pour montrer justement la qualité particulière du rêve. Je vous lis quelques lignes quand même sur cette vision des choses. Tout est rêve dans cette pièce. C'est Boto Strauss qui parle. Tout est rêve dans cette pièce. Pas un rêve du profond sommeil nocturne, ni une dramaturgie des visions déformées de l'inconscient, mais une construction en rêve, claire, logique, en suspens, qui déréalise toutes les marques de réalité, aussi bien de la situation historique de la marche du Brandebourg en 1675 que de l'État prussien en 1810, et les transforme en marques de l'imaginaire, des souhaits et projections de l'auteur Kleist. Eh oui, nous y voilà. Et ensuite, ça continue, si vous voulez, quelques lignes. Kleist écrit une pièce d'agitation politique. Elle fait de la propagande pour la réalisation de l'idée, alors progressiste, de la libération nationale et de l'unification dans un État national, et au-delà, pour une forme d'État idéal où l'ordre social et les sentiments subjectifs de l'individu se liraient, sans contradiction, où la richesse personnelle de bonheur servirait et favoriserait l'intérêt de la totalité de l'État. C'est bien la liaison des deux. C'est bien la réussite de l'intime et du collectif, du personnel et de l'anonyme.
Ensuite vient, 2 ans plus tard, par un metteur en scène allemand, l'inévitable confusion et dénonciation du régime nazi.
Ah bah oui, c'était une très belle mise en scène, c'était le 84, un metteur en scène allemand, mais qui est très francisé, c'est Matthias Langhoff, en 1984, il a pris la pièce pour une sorte de provocation à aller dans le sens d'une démolition systématique de tout ce que l'Allemagne militariste avait produit de pire, et naturellement, c'est le nazisme qui est en cause. Donc le nazisme, il est en germe dans l'électeur, c'est un proto-nazi, et donc il s'agit de détruire la pièce, de montrer que tout n'est que mensonge, artifice, et que l'électeur est une sorte de pantin supérieur qui apparaît en chemise de nuit, réveillé dans son sommeil et mécontent, donc vraiment réduit au plus bas. Notre prince d'Hambourg, interprété par Gérard de Sarthe, complètement écrasé, dans sa grande déclaration, il est sous un parapluie, et l'eau tombe à Pierrefonds, si je peux dire, et on n'entend plus rien, donc on tue le texte même, de telle sorte que le texte lui-même soit inaudible, donc tout est fait d'une façon remarquable, mais absolument, on pourrait dire, scandaleuse en un sens, si on veut vraiment voir un autre sens à cette pièce, mais c'est parfait dans son genre. Donc on a affaire, vous voyez, à une démolition en règle de cette pièce considérée comme une pièce militariste, ce qui, à mon avis, est complètement faux.
Et puis, il y a la mise en scène d'Avignon,
alors,
qui est due à Corsetti.
Alors, elle se joue bientôt. J'ai du mal à en dire du bien. J'ai du mal à en dire du bien parce que pour Corsetti, c'est très beau, vous avez de très belles images. Corsetti est un scénographe bien connu, vous l'avez vu ici peut-être, mettre en scène Gertrude, vous pouvez le voir en ce moment à la Comédie Française, mettre en scène un Feydeau, donc c'est un homme de très grand talent scénographique et qui a beaucoup d'inventions en ce qui concerne, pour Feydeau, des gags. Ça, c'est incontestable. Mais pour cette pièce, son idée, Alors j'ai dans ma édition anticipé sur sa mise en scène, puisque je l'avais pas, elle n'était pas encore sortie, et donc j'ai utilisé ses propres notes, qui à mon avis, s'il y avait une nouvelle édition, serait les modifier, parce que mon point de vue, j'avais pas de point de vue là, puisque je n'avais pas d'avis, mais mon point de vue est tout à fait différent, puisqu'il a fait du prince de Hongrie une victime. C'est une victime du pouvoir. C'est pas seulement du pouvoir militaire, c'est de tout pouvoir. Tout pouvoir est mauvais. C'est la conception évidemment anarchiste, à savoir que si vous êtes un homme, vous êtes appelé à endosser une fonction qui est forcément une fonction d'aliénation. Alors vous voyez sortir des entrailles de la terre 5 hommes nus, on en choisit un, ça va être le prince de Hombourg, on va lui mettre sur le dos un uniforme et vogue la galère, et donc il va être lancé dans la guerre, dans la galère de la guerre. Et donc, il va commettre une bêtise et il l'opéra au maximum, puisqu'à la fin, il sera transformé en pantin que l'on manœuvre. Et dans cette mesure, il n'existe littéralement plus.
Merci beaucoup. On peut s'en tenir là.
C'est pas très encourageant, mais c'est à voir, parce que c'est très beau. Merci. Bon, ça, c'est bien.